Merci de rester à l'écoute de RFI, il est 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Nemo Ampis, bonjour.
Bonjour à tous. C'est une nouvelle désillusion pour l'autorité palestinienne au lendemain d'un veto américain sur une résolution de cesser le feu dans la bande de Gaza. Vous entendrez l'ambassadeur palestinien adjoint aux Nations Unies. Pour lui, il n'y a aucune justification possible à ce choix. Nous sommes à Port-au-Prince ensuite. Plus de réactions après des propos polémiques d'Emmanuel Macron envers les dirigeants haïtiens. Le président français a qualifié de cons ceux qui ont poussé à la destitution de l'ancien Premier ministre Gary Conille. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui ont tué Haïti, a-t-il ajouté. Dans ce journal également, la Commission européenne qui pourrait finalement être validée. Et puis Kamel Daoud, lauréat du dernier prix Goncourt, visé par une plainte en Algérie. Une jeune femme rescapée d'un massacre qui a tué toute sa famille assure que l'auteur s'est totalement inspiré de son histoire sans son accord. Vous entendrez l'avocate de la plaignante. La défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 22 nouvelles personnes dans une frappe israélienne cette nuit sur Gazaville. Un peu plus tôt, des sources médicales ont fait état de dizaines de morts dans la zone de Beit Laya et de Jabalia. Toujours pas d'arrêt des combats donc dans l'enclave palestinienne, d'autant qu'hier les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu à Gaza. Les 14 autres membres du Conseil avaient voté en faveur de cette proposition. Ils ont vivement critiqué la position américaine et pour les Palestiniens, c'est un affront de plus et un veto qui suscite la colère de l'autorité palestinienne. Alice Froussard.
Pour beaucoup, le texte bloqué n'était déjà que le strict minimum. Tapant du poing sur la table, Majed Bami, l'ambassadeur palestinien adjoint à l'ONU, l'a martelé. Il n'y a selon lui aucune justification possible à un veto contre une résolution tentant de stopper les atrocités.
There is no right.
Il n'y a aucun droit au massacre des civils. Il n'y a pas de droit à affamer une population civile entière. Il n'y a pas de droit au déplacement forcé d'un peuple et il n'y a pas de droit à l'annexion. Voilà tout ce que l'absence d'un cessez-le-feu est en train d'autoriser. Seul un cessez-le-feu permettra de sauver des vies, toutes les vies.
Le texte exigeait en effet un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui devait être respecté par toutes les parties. Et il demandait aussi la libération immédiate de tous les otages au moment où les négociations patinent et alors que la guerre s'enlise. Pour l'ambassadeur palestinien, cela fait des mois qu'Israël n'a aucune intention de laisser aboutir ce cessez-le-feu.
Si les efforts diplomatiques avaient abouti, nous ne serions pas là. Et nous saluons toutes les tentatives qui ont eu lieu jusqu'ici, tous les efforts déployés. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'Israël ait un veto qui bloque chaque tentative de mettre fin à cette guerre.
Et s'adressant aux Américains, il insiste « Nous, Palestiniens, sommes pour une voie pacifique, même après tout ce qui s'est passé ». Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Et autre cessez-le-feu évoqué récemment entre Israël et le Hezbollah. Cette fois, on apprend ce matin que l'émissaire américain Amos Hochstein, qui tente de faire aboutir le texte, doit rencontrer aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un envoyé qui a fait état hier à Beyrouth de progrès supplémentaires autour d'un arrêt des combats et le retrait des forces israéliennes du Liban sur base d'une résolution des Nations Unies qui avait déjà mis fin à la précédente guerre entre les deux camps. C'était en 2006. Des frappes ont également été enregistrées sur la banlieue sud de Beyrouth après un appel israélien à évacuer, puis un bilan alourdi en Syrie au lendemain de frappes israéliennes contre des groupes pro-iraniens dans la ville de Palmyre, dans le centre du pays. 71 morts désormais selon les derniers chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce sont de nouveaux propos polémiques de la part d'Emmanuel Macron, cette fois en direction de la classe politique haïtienne. En visite à Rio de Janeiro au Brésil, en marge d'un sommet du G20, le président français a rendu responsable les dirigeants de la crise profonde que traverse leur pays. Ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui ont tué Haïti, a-t-il lancé, qualifiant même de cons ceux qui ont poussé à la destitution de l'ancien Premier ministre Gary Conille. Un départ qu'Emmanuel Macron qualifie de décision absurde. Réaction en cascade donc à Port-au-Prince. Selon de nombreux citoyens, les mots du président français témoignent d'un mépris envers Haïti tout en occultant le rôle historique et actuel de la France dans les malheurs de leur pays. Correspondance de Peterson Luxama.
La déclaration du président français fait déjà la une des agences de presse en ligne en Haïti. Les réactions coulent à flot. Pour Jean-Willy Bellefleur, écrivain et philosophe, les propos d'Emmanuel Macron relèvent de l'arrogance pure et simple.
Comment un président étranger peut se permettre de parler comme ça au sujet des dirigeants de notre pays indépendant ? Là, je suis vraiment révolté, cette arrogance va trop loin.
De son côté, Richard Célestin, jeune journaliste, dit ne pas accorder trop d'importance à cette déclaration. Selon lui, Emmanuel Macron est un président en échec qui tente désespérément de capter l'attention.
Tout ça entraîne une logique de discriminer Haïti. Mais qu'on a un jeune homme qui échoue au niveau leadership continental ou bien européen. C'est un type, le président de la République, qui cherche à exister.
Le message du président français ne laisse pas non plus indifférente Ouzlad Iznard.
Nos élites politiques ont largement contribué au malheur de cette nation. Cependant, il serait injuste et simpliste d'ignorer les implications externes, notamment le rôle déterminant joué par la communauté internationale dans ces situations de crise.
Si les dirigeants haïtiens portent une part de responsabilité dans les malheurs du pays, plus d'un pense que la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a aussi joué un rôle en pillant les ressources du pays et en affaiblissant ses institutions. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI, 14h passées de 6 minutes à Bakou. Les débats à la COP29 en Azerbaïdjan doivent se refermer demain. Des discussions enflammées alors qu'un projet d'accord publié dans la nuit a été jugé inacceptable par le négociateur de l'Union européenne, Wopke Hoekstra. Bruxelles estime notamment qu'à ce stade, le projet n'est pas assez ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre en raison notamment de l'opposition des pays producteurs de pétrole. Il y a quelques minutes, les pays en développement ont demandé 500 milliards de dollars de financement par an aux pays les plus développés. Bruxelles, où la future Commission européenne devrait finalement pouvoir être validée telle qu'elle, c'est en tout cas ce qui ressort des réunions tenues hier au Parlement européen au sujet du candidat hongrois et des 6 candidats vice-présidents. Pour l'heure, il faut encore parler de lumière au bout du tunnel, car tant que la procédure n'est pas achevée, elle peut encore échouer. La réunion d'hier de la conférence des présidents de groupe du Parlement européen a cependant envoyé une fumée blanche puisqu'ils ont accepté de procéder à une évaluation finale des 7 candidats encore non validés. RFI Bruxelles, Pierre Benazé.
Parmi les candidats encore en suspens, le Hongrois Oliver Vorey n'est finalement pas recalé, mais son portefeuille est vidé des compétences sur lesquelles il n'a pas convaincu lors de son audition. Ensuite, 2 présidents qui étaient sur la sellette. D'abord, l'Italien Raffaele Fitto, dont les socialistes ne voulaient pas, car il appartient à Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, classé à l'extrême droite. Ensuite, l'Espagnol Teresa Ribera, qui était menacé par la droite pour sa gestion de l'environnement avant les inondations de Valence. Ils sauvent tous les deux leur portefeuille, une sorte de donnant-donnant droite-gauche. Il y a surtout eu un accord global ce jeudi entre les 3 parties de la coalition politique. Ils ont renouvelé par écrit leur engagement à travailler ensemble pendant les 5 ans à venir. Un accord de coopération en 9 points sur les défis essentiels pour l'Europe. Les bisbilles entre les groupes politiques ont privé le Parlement européen de sa capacité à recomposer le collège des commissaires, alors que c'est le moment où il a le plus de pouvoir. Surtout, ce retard donne l'image d'une Europe qui a du mal à prendre des décisions à un moment où les défis s'accumulent. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et puis un mot de littérature pour refermer cette édition. 2 semaines après la remise du prix Goncourt, son lauréat Kamel Daoud et sa compagne sont visés par une plainte en Algérie. Elle a été officiellement acceptée par le procureur de la République. La plaignante, une jeune femme s'appelant Saada Arban, qui a perdu sa voix, rescapée d'un massacre lors duquel elle a perdu toute sa famille. Et elle accuse la femme de l'auteur et l'auteur de Houri d'avoir violé le secret de son dossier médical et d'avoir violé son intimité, et cela sans son consentement, en se basant sur sa propre histoire. Saada Arban dit se reconnaître dans le personnage principal du livre, Aube. Je vous propose d'écouter son avocate, Fatima Benbraham.
J'ai les documents qui prouvent au monde entier que Aïcha Dahdour, psychiatre, suivait ma cliente depuis 2015. Que Aïcha Dahdour est la femme de Kamel Daoud. Que les rapports médicaux dont je dispose, et certains rapports viennent de médecins français. Tous ces documents ont déjà été présentés au tribunal. Parce que si les preuves n'existaient pas, l'action aurait été irrecevable.
Que cherchez-vous en saisissant la justice ?
Que justice soit faite, pas plus. Que les droits de ma cliente ne resteront jamais bafoués par quiconque.
Fatima Benbraham, avocate de Saada Arban. Elle était jointe par Ouda Ibrahim, l'avocate qui donnera aujourd'hui une conférence de presse à Alger pour exposer l'ensemble de ses preuves dans l'affaire. 11h passées de 9 minutes ici à Paris, dans un instant sur RFI. 8 milliards de voisins, vous retrouvez Emmanuel Bastide.